Bienvenue dans les discussions de la chocolaterie, un cycle de conférences organisé par l'École de la nature et du paysage, département de l'INSA Centre Val-de-Loire. Cette année, le thème des discussions porte sur les apparences. Retrouvez ainsi régulièrement sur StudioZef et StudioZef.fr les captations des échanges entre les intervenants et le public. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous. On est très contents de vous accueillir dans le cadre de cette discussion de la chocolaterie qui entame, c'est la deuxième étape de notre cycle de l'année, qui a pour thématique apparence au pluriel. On se questionne tout au long de ce cycle des discussions de la chocolaterie sur le pouvoir trompeur, le pouvoir imaginaire, le pouvoir d'évocation des images et du langage, en s'intéressant sur leur vérité aussi, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, ces images. Donc c'est un petit peu tout ce qui va nous occuper pendant l'année. Aujourd'hui, on s'enfonce dans les sous-sols de la région parisienne pour questionner les sols du Grand Paris. On est très heureux d'accueillir Anne-Marie Filaire, donc, qui est photographe, et qui va nous raconter cette expérience qu'elle va nous transmettre. Et sa discussion est animée par Bruno Marmiroli, qui est le directeur de la Mission Val-de-Loire, parce que ce cycle de discussion que nous menons depuis plusieurs années, c'est un travail commun, collectif, puisque nous sommes plusieurs à travailler ensemble. La Mission Val-de-Loire, donc, que Bruno représente ce soir, et qui a coordonné particulièrement cette discussion. Également le CAUE, le Conseil d'architecture, d'environnement et d'urbanisme et d'environnement du Loir-et-Cher. Aussi l'association Cinéphile et la radio associative StudioZef, qui est ici représentée, que je remercie beaucoup, qui enregistre et qui diffuse cette discussion en format radiophonique. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir Anne-Marie Filaire pour son travail, et aussi tout particulièrement parce que son dernier livre, qui s'appelle Terre, a été coécrit par un grand enseignant de l'école qui a disparu il y a peu, qui a beaucoup compté pour mon propre parcours, qui s'appelle Claude Evenot. Et donc je voulais profiter de votre présence ce soir pour le saluer tous ensemble. Et en tout cas, voilà, je suis très heureuse de la discussion qui s'annonce. Bonne soirée à vous et merci beaucoup Anne-Marie et Bruno pour cette discussion.
Merci, alors je vais prendre le relais. Juste pour faire une petite présentation d'Anne-Marie, en complément de ce qu'a dit Lolita, alors effectivement, Anne-Marie Filaire, donc je vais très brièvement recontextualiser. Donc tu es photographe depuis un certain nombre d'années. Tu es aussi enseignante, tu enseignes la photographie à Sciences Po depuis 2011, hein, j'ai bien noté. Et évidemment, tu travailles principalement, et tu nous en parleras, sur la question du paysage et du temps. C'est vraiment ces deux notions avec lesquelles tu vas avoir un parcours qui est un parcours pas international, mais pratiquement, puisque tu vas franchir pas mal de frontières, que ce soit des frontières de parcs naturels ou même des frontières politiques. Et puis, plus récemment, tu as, en 2018, je crois, effectivement, interrogé l'invisible, c'est-à-dire ce qui se passe sous nos pieds quand on est dans un territoire qui est abondamment marqué par l'anthropisation, c'est-à-dire un espace métropolitain hyper dense et pour autant sous lequel il se passe des choses étranges, qui construisent, qui détruisent, qui font disparaître et réapparaître des paysages. Il y a cet ouvrage, et puis cet ouvrage, il rentre en résonance avec tout un parcours, c'est-à-dire 20 ans, plus de 20 ans d'arpentage, de questionnement. Et moi, je vais reprendre simplement, parce que j'avais trouvé ça très pertinent, ce que disait un article des Inrecuptibles qui te concernait. Tu as beaucoup publié, tu parleras peut-être aussi de ton rapport au livre photographique qui est intéressant, et qui était, voilà, comme je lance cette discussion, une photographie, donc portée par Anne-Marie Filaire, habitée par l'inquiétude plus que par les hommes.
Bonsoir. Donc c'est une question vraiment très difficile pour commencer cette discussion. Je dirais que Oui, parce que cet article des Inrecuptibles, il a été écrit suite à l'exposition que j'ai présentée au MUCEM à Marseille, qui était une rétrospective sur mon parcours au Moyen-Orient. Donc c'est un travail où c'est toute une partie de ma vie. Pendant 15 ans, j'ai fait du terrain dans ces régions du monde, Moyen-Orient, Proche-Orient, Israël-Palestine, donc qui en est le fil rouge. Mais j'ai voyagé dans des régions lointaines. J'ai fait de nombreux voyages au Yémen, j'ai travaillé en Érythrée, Jordanie, Liban, Émirats Arabes Unis, dans tout un tas de régions du Moyen-Orient. Et donc, dans cette exposition, je montrais, je racontais des espaces, des territoires, des zones de conflit, des zones, justement, qui n'étaient pas paisibles. Et je pense que c'est dans ce sens-là aussi que voilà, ce qu'évoque ce papier. Mais effectivement, pour moi, le paysage, c'est la chose la plus réelle et la plus abstraite à la fois. C'est un sujet absolument extraordinaire pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir raconter des choses, quelles qu'elles soient d'ailleurs. C'est un sujet suffisamment abstrait, suffisamment vaste, pour pouvoir s'y engouffrer. Et puis le paysage, c'est avant tout pour moi quelque chose qui vous résiste. Et donc c'est un outil d'écriture, en fait, un outil extraordinaire quand on veut s'exprimer, voilà, je dirais. Voilà, donc c'était des paysages vides de toute représentation humaine, puisque je travaille beaucoup sur... le paysage, si vous voulez, c'est vraiment l'idée du paysage dans toute sa structure. Effectivement, j'ai travaillé sur les grandes missions, donc la mission de l'Observatoire photographique du paysage, dont je vais vous parler un petit peu ici. Donc l'idée, c'est l'observation du paysage dans le temps. Et parallèlement à cette mission que j'ai réalisée, moi, en Auvergne, sur le parc du Livradois-Forez, donc je suis originaire de cette région. Donc elle a pris pour moi un sens très, très particulier, un sens très singulier, puisque je pouvais me l'approprier pour raconter des choses qui me concernent. Et puis parallèlement à cette mission, où je revenais tous les ans refaire les mêmes images, je partais dans d'autres territoires du Proche et du Moyen-Orient pour faire d'autres images. Donc mon travail s'est construit dans ces allers-retours avec, entre ces paysages lointains et ces images fixes que je revenais questionner tous les ans. Donc j'avais ces points fixes qui étaient ceux de mon territoire maternel, en fait.
Non, mais justement, je te suis dans la déambulation entre ces points et ces allers-retours. Et puis peut-être aussi une autre question, mais qui viendra au fil de... Tu as parlé de paysage comme outil. J'aimerais bien aussi que tu en profites pour nous parler de l'outil que tu utilises pour capter, travailler, arpenter et qui t'accompagne en permanence.
Donc, je vous parlais de l'outil que j'utilise effectivement. Mais juste pour vous dire qu'on va arriver aux terres excavées du Grand Paris. Hein. C'est ça, c'est mon dernier travail, donc c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Mais je vais l'amener, ce dernier travail, parce qu'il s'est passé avant, parce qu'effectivement, il y a toujours eu beaucoup de politique dans mes paysages, dans mes images. Et c'est à partir de là, c'est cette dimension politique des terres qui m'a intéressée. C'est parce que j'ai tout ce parcours derrière moi que je suis arrivée à ce sujet sur les terres du Grand Paris. Donc... au départ, j'ai commencé par photographier l'Auvergne et puis après, j'ai travaillé pour la mission de l'Observatoire photographique du paysage, qui émane du ministère de l'Environnement. Donc, j'ai commencé à faire des photos sur le parc du Livradois-Forez en 1997. Donc, vous voyez, ça, c'est mon appareil photo, donc un moyen format, avec un dépoli quadrillé dans le viseur. Donc, ce dépoli quadrillé, c'est vraiment un outil nécessaire pour pouvoir ensuite refaire les photos, reproduire les paysages que j'avais déjà photographié, puisque ça permet de... J'avais reproduit ce dépoli sur un transparent que je mettais sur les images que j'avais avec moi. Et c'est ce qui me permettait de pouvoir retrouver le cadre sur le terrain ensuite. Donc, c'est des relevés très précis. Vous voyez, donc c'est une région... Ici, on est en Haute-Loire. Donc, c'est vraiment de là d'où part mon travail, donc de la Haute-Loire, avec ici un point de vue... 97, 98, 99. Donc c'est juste pour vous montrer une méthodologie, la forme que prend le travail, parce que ce qui m'a intéressé dans cet observatoire, en fait l'idée des observatoires, c'était de refotographier les paysages dans le temps pour voir comment ils évoluaient, pour voir les modifications de ces espaces. Et en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le contre-pied de ça, j'ai ciblé plutôt les permanences. Je me suis intéressée à non pas photographier le paysage, mais l'image. Donc j'ai construit une œuvre abstraite, abstraite, surtout que cet observatoire, je l'ai poursuivi pendant plus de 7 ans. Donc j'ai fait les 7 premières années, puis après je suis revenue en 2009, en 2019, refaire ces photos. Donc ici, je vous ai mis quelques pages d'un livre pour vous montrer quelle forme prennent ces images lorsqu'il y a accumulation. Et moi, c'est ce que j'aime, ça, c'est cette dimension de l'abstraction, de l'abstrait du paysage. Et c'est vraiment une attention très particulière portée au paysage de l'observer de cette façon, parce que c'est vraiment un travail sur la lumière, sur la matière, si vous voulez, tout est porté par la lumière dans ce travail-là. Refotographier une image, c'est vraiment refotographier au départ une lumière. Donc vous voyez d'autres exemples ici. Vous voyez que les choses ne bougent pas ici. C'est la vallée des usines à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Rien ne bouge. Une année, l'usine est détruite, donc l'image change radicalement. Et puis pas tant que ça finalement, parce qu'il y a des lignes directrices qui conserve cette esthétique. Là, j'ai choisi cette revue qui est une page de la revue de l'Observatoire photographique du paysage, où on voit, voyez un site que j'ai photographié avec la deuxième image et la troisième image, c'est la même année, c'est le même lieu, mais j'ai gardé dans l'observatoire, dans la restitution de la mission, la troisième, qui est celle dont l'ombre portée est la plus forte, parce que c'est vraiment, c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je cherchais la lumière, et donc je cherchais à construire une forme plastique, et l'image que j'ai enlevée, c'est celle-ci, même si elle est très belle, elle ne correspondait pas à l'image initiale. Donc photographier du temps, c'est aussi réunir ce temps, c'est-à-dire le restituer dans un livre, et ici en l'occurrence avec l'Observatoire. Donc là, dans ce livre que j'ai publié à compte d'auteur, il y a 7 années de photographie. C'est un livre où les images sont collées sur les pages et qui a une tranche de 20 cm de haut. Donc là, il est dans les collections du musée Niépce à Chalon-sur-Saône, le musée d'histoire de la photo. Donc c'est un livre qui réunit des images, mais aussi des notes, des textes, puisque j'écris toujours à côté des images. Pour moi, c'est quelque chose d'important, l'écrit. Et là, c'est une présentation de ce travail de l'Observatoire à la Bibliothèque nationale de France lors de l'exposition Paysages français en 2017. Donc cet observatoire, cette méthodologie, je l'ai déplacée en 2004 au Proche-Orient, au moment de la construction du mur de séparation. Donc pourquoi ? Parce que ça avait tout son sens de réaliser ce travail là-bas, d'observer l'effacement, en fait, j'irais, d'un paysage, la séparation des peuples, de témoigner de cette violence, en fait. Et donc, comment faire ? Moi, je me suis installée dans le temps et je me suis mis à faire des relevés de terrain à cette époque, entre 2004 et 2007, donc période de la construction du mur, dans cette région. Donc,
je vais juste peut-être expliciter ce qu'est ce mur. Peut-être que tout le monde ne voit pas ce que c'est. C'est un mur qui sépare les territoires palestiniens des territoires israéliens, pour faire court, et qui matérialise une ligne qui est née des accords d'Oslo, donc à partir de 1995, et qui se matérialise sous la forme d'un mur qui avant était finalement une frontière qu'on pouvait relativement poreuse, puisqu'elle n'existait que sur les cartes, et qui délimite finalement de façon pour le coup irréversible là où sont cantonnées les populations palestiniennes.
Oui, merci Bruno de cette précision. C'est vrai que je ne me rends pas compte, en fait. C'est vrai que c'est ancien tout ça, et on n'est pas forcément informé. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je faisais ce travail, c'était une région du monde qui était ultra médiatisé, à la télévision, à la radio, tous les jours, on entendait parler d'Israël et de la Palestine, mais surtout des attentats, puisqu'il y avait énormément d'attentats, il y avait une violence inouïe, puisque à ce moment-là, ces deux peuples allaient se séparer. Et donc c'est un conflit de territoire. Hein. Et donc par là même un conflit économique et politique. Mais moi, ce que j'ai fait, donc ce sujet du territoire, je l'ai photographié, alors qu'à la radio, à la télé, on montrait que des images des attentats, etc. Donc avec cette manière de m'installer dans le temps et de revenir régulièrement refotographier les mêmes points de vue. À cette époque, ma photo s'est transformée aussi. Elle est devenue, elle a pris la forme de panorama, puisque l'espace se fermait. Je me suis mis à tourner sur moi-même, puisque quand vous ne pouvez plus avancer, vous vous mettez à tourner sur vous-même. Et donc, l'espace, paradoxalement, il se fermait, il s'est déplié dans ma photographie. Donc voilà, ça me permet de vous dire aussi que la photo, c'est quelque chose de très physique, c'est un acte avant tout. On y va, je suis une photographe de terrain, on y va physiquement, et ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas pour quand on travaille avec le paysage, quand on regarde le paysage, c'est vraiment avant tout un travail aussi où on s'engage physiquement. Donc vous voyez d'autres, cette image ici, avec le mur, c'est exactement la même, c'est le même point de vue que l'image qui est en haut, ici. Et celle-ci, donc 2 ans plus tard, on est dans la banlieue de Jérusalem, ici. Donc vous voyez, à la fois, c'est des paysages qui ont une forme, qui sont une certaine blancheur, je ne sais pas comment sont restituées les images sur l'écran, mais qui ont une certaine douceur, des formes assez douces, une certaine lumière, mais il n'y a personne. Et pour moi, ce qui est le plus violent dans ces images, c'est le vide, c'est l'absence de personne. D'autant que ce sont des régions du monde où où le Moyen-Orient, les gens vivent dans l'espace public, vivent dehors. Et donc là, il n'y a personne. Ici, on est au pied du Mont des Oliviers, à Jérusalem, donc au moment de la fermeture de la ville. Donc c'est la construction du checkpoint qui va fermer Jérusalem, qui va le séparer de qui va la séparer de sa banlieue orientale. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi de, quand on dit Mont des Oliviers, nous dans notre culture, c'est vrai, judéo-chrétienne, le Mont des Oliviers, on voit une belle colline avec des oliviers, mais en fait non, c'était un gros chantier à cette époque. Voilà. Et ici, une autre image que je vous montre qui s'appelle Calandia. Calandia, vous voyez, cette bande de terre, c'est l'endroit, c'est la frontière internationale, donc elle a pris ce nom, qui sépare Ramallah, donc de la municipalité de Jérusalem. Donc quand vous voyez des images du mur, de ce grand mur complètement tagué, plein de graffitis, etc., bien c'est ici. Voilà, et pour moi, Calandia, c'est plutôt une musique, parce qu'à l'époque, quand j'allais à Ramallah, depuis Jérusalem, etc., on prenait des petits bus qui s'appellent des dabab, et tu dois t'en souvenir, et c'est vrai que sur les parkings des gares routières, les chauffeurs de bus, ils criaient Calandia, Calandia, donc c'est, pour moi, c'est plus une musique, vous voyez, et donc c'est le nom de ce lieu, mais c'est, voilà, c'est une bande de terre qui a aujourd'hui disparu. Enfin, dans l'inconscient collectif des gens, ces images sont importantes. Ces lieux sont importants. Et c'est vrai qu'on connaît souvent les paysages, les lieux, grâce aux images. Donc pour moi, c'était important de constituer des images, des paysages de Palestine à cette époque, au moment où tout ça s'effaçait et disparaissait. Et bien sûr, ce travail a une dimension très politique, puisqu'il s'agit d'un conflit de territoire. Donc vous voyez, là aussi, j'ai rassemblé du temps. Donc ces images-là, ces grands bandeaux, ces 4 ans, je les ai réunis dans un film qui s'appelle Enfermement. Donc c'est tous ces paysages, je les ai mis bout à bout. Donc c'est les mêmes lieux qui reviennent, 2004. Plus j'y allais très souvent dans une même année. Donc je refotographiais les lieux, leur transformation, tout ça. Ça c'était vraiment un vrai bouleversement. Ça allait très vite. Et donc j'ai fait un film qui réunit 4 ans de temps et qui s'appelle Enfermement. Tout comme j'avais fait un livre pour l'Observatoire. Donc là, c'était la forme du film dont vous voyez une projection ici à l'abbaye de Fontevraud, qui est pas très loin. Donc là, ici, j'ai mis la couverture de ce livre, qui est une monographie, donc qui réunit mon parcours, donc qui raconte un peu tout ça, et puis tous les autres paysages, tous les autres territoires que j'ai traversés, depuis l'Auvergne, à travers tout le Moyen-Orient, et puis ensuite l'Égypte, l'Algérie, jusqu'en 2014 en Jordanie, voilà, au moment où la Syrie a fermé ses frontières, où j'ai travaillé sur la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Et donc, je vais arriver aux terres parisiennes. Donc ici, je vous montre le livre Terre qui est sorti, donc qui a été publié aux éditions Dominique Carré à la Découverte en 2020. Donc un livre que j'ai fait avec Claude Evenot, qui a écrit le texte. Juste pour vous dire que c'est un texte qui est vraiment très intéressant pour accompagner ces images. C'est un texte très vivant, qui est très documenté, très, très référencé. Et Claude Evenot, c'est un vrai Parisien, donc ça avait beaucoup de sens de travailler avec lui sur cet ouvrage. Ici, je vous montre une vue de l'exposition que j'ai présentée à l'École du paysage de Versailles, donc c'était en 2020 aussi, je crois, en 2019, lors de la Biennale paysage et architecture, donc pas la dernière, mais la précédente, donc une vue de ces photos des terres. Et avant de montrer vraiment les photos, je vous montre ici une carte, qui s'appelle le bassin versant de la Terre. En fait, cette carte montre les flux de terre acheminés par des camions sur un site qui se trouve près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, donc sur lequel j'ai travaillé, dont je vais vous montrer les images maintenant. Je trouvais ça intéressant. J'aime beaucoup cette idée du flux du bassin versant. C'est une journée d'acheminement de la terre sur un site. Donc, pour faire ce travail, je me suis rapprochée du groupe ECT qui gère ces sites et qui travaille avec les terrassiers. Je vais juste vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. C'est quoi les terres excavées du Grand Paris ? Vous savez, je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi vous, mais Paris, on vit dans les travaux depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans maintenant. En fait, Paris devient le Grand Paris. Est devenu déjà le Grand Paris. Cette extension du territoire se fait par l'extension d'un réseau qui est celui du Grand Paris Express, du futur métro parisien. Pour ce faire, il faut creuser le sous-sol de Paris. Il y a des quantités gigantesques de terre qui sont excavées du sous-sol pour le creusement de ce futur métro. Donc c'est 45 millions de tonnes de terre pour le creusement du métro. Mais il y a aussi tous les travaux, toutes les infrastructures liées à l'extension de Paris, c'est-à-dire les travaux du BTP, donc de l'habitat, les travaux liés aux futurs Jeux Olympiques, etc. Donc c'est un chantier titanesque qui est à la même échelle que la période haussmannienne. Donc c'est juste pour vous donner cette comparaison parce que c'est une transformation énorme. Et on s'en rend pas toujours compte, si ce n'est que l'espace est complètement bouleversé. Enfin, tous les codes sont modifiés actuellement à Paris. Les terres excavées sont des terres très profondes qui n'ont pas de statut juridique et qui prennent le statut de déchets lorsqu'elles quittent le lieu de leur excavation pour être déplacées. Donc des terres très profondes qu'on déplace et qu'on amène sur des sites à environ une cinquantaine de kilomètres autour de Paris, donc sur des sites tout autour de la capitale. Il y a des sites de réception des terres. Et moi, je me suis rapprochée du groupe ECT, donc qui gère ces sites, pour faire ce travail, et qui m'ont laissé carte blanche pour travailler sur ces lieux qui sont parfois des immenses déserts, des immenses déserts urbains, sont des lieux fermés au public. Donc j'ai eu la possibilité d'accéder sur ces lieux. Donc là, je vais vous montrer des photos d'un seul site parce que, en fait, j'ai fait ce travail pendant plus de 3 ans. Donc c'est un travail sur le temps long, hein, je le précise. Je suis une photographe qui travaille sur le temps long, que ce soit ici sur les terres, que ce soit en Palestine, que ce soit autour d'une ville comme Phnom Penh, en 2002, je m'installe vraiment dans la durée quand je travaille. J'ai commencé en 2018 à faire ces photos. J'ai publié en 2020 donc Terre, sol profond du Grand Paris. Et en 2021, j'ai poursuivi de janvier à décembre, de façon quasi quotidienne, l'observation des sites. Donc ici, les photos que vous voyez sont des photos qui sont prises sur le site de Villeneuve-sous-Dammartin, près de Roissy. C'est une période de confinement, donc vous voyez, c'est Paris. J'avais la grande conscience aussi, quand je photographiais ces terres, que c'était Paris que je photographiais. La photo du haut, c'est l'extérieur d'un site, l'extérieur d'un casier, et la photo du bas, c'est l'intérieur du casier. Donc, en fait, vous voyez, ce sont des grosses infrastructures, en fait, de terres. Dans le casier du bas, vous voyez, la terre, elle a un aspect un peu, on dirait du goudron, elle a un aspect un peu bleuté. C'est une photo que j'ai faite donc en 2021. Donc c'est les terres des tunneliers. Les tunneliers, c'est ces grosses rotatives qui creusent les galeries du futur métro parisien qui s'appelle le Grand Paris Express. Donc les molécules de la terre, des terres, sont cassées par ces rotatives, ce qui leur donne cet aspect métallique et bleuté. Et il n'y a pas d'eau dedans, même si ça ressemble un peu à de la boue. D'ailleurs, les gens qui travaillent sur les chantiers l'appellent la boue. Mais c'est simplement parce que les molécules de terre sont cassées qu'elle a cet aspect. Ces photos sont faites donc en 2021. Donc c'était... ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour moi quelque chose de très particulier de faire ce travail, parce que d'abord, le pays était confiné. Donc moi, j'avais cette liberté de sortir et d'aller sur ces lieux qui étaient comme des grands déserts. Donc c'était très grand, très vaste. J'étais en pleine liberté de circuler dans ces grands espaces. Et puis en même temps, donc c'était une période de confinement, mais j'étais aussi confinée dans ces espaces, parce que les lieux, ils sont fermés au public. Des fois, je me fermais à clé. En fait, des fois, il y a certains sites où je fermais à clé. Donc, vous voyez, il y a toujours cette dimension paradoxale dans l'image, à la fois, comme je vous parlais tout à l'heure en Palestine, à la fois de cette douceur des formes, de cette beauté et de cette violence restituée par l'absence. Ici, il y a ce paradoxe aussi, à la fois du vide et du plein, de la liberté et du confinement. Donc voilà, encore quelques images de ce site.
Juste pour préciser un point, tu as parlé de casier et d'une sorte de méthode assez scientifique. Est-ce que tu peux revenir dessus pour éclairer simplement la façon dont toi tu suis l'évolution de ces fameux casiers ?
Alors, je vais y revenir parce que j'ai un deuxième PowerPoint après où je vais vraiment vous montrer aussi la façon dont je travaille, un peu comme je fabrique, comment j'archive mon travail aussi pour pouvoir après y revenir. En fait, ces terres, c'est des quantités énormes. En termes d'image, je crois que ça fait 4 pyramides de Khéops par an en termes de volume. Donc c'est énorme. Et qui sont excavés chaque année. Donc, en fait, les sites, chaque site a son identité. C'est des lieux qui sont circonscrits, donc des espaces dans lesquels les terres sont acheminées. Donc, ça peut être soit des galeries souterraines qui sont comblées, ça peut être d'anciennes des carrières d'argile, par exemple, comme en Essonne, j'ai photographié des anciennes carrières d'argile qui sont comblées et qui après s'élèvent, qui deviennent des montagnes. En fait, où il y a d'autres. Ce site-là, c'est vraiment un site très très grange, comme qu'on n'en verra plus. Il y a un deuxième site ici qui s'appelle Annette en Seine-et-Marne aussi, qui est un site très très grand. Il y a des creusements, on remplit, et puis après, on construit comme un énorme bassin, si vous voulez, c'est ça le casier. C'est un énorme bassin qui va être construit, et dans ce bassin, on va déverser de la terre, comme ce que vous voyez à l'écran, où on voit. En fait, on dirait presque de l'eau, on dirait presque des photos de mer, mais c'est des photos de terre. Et une fois que les casiers sont remplis, on construit un autre casier à côté, etc. Et l'espace, à la fois s'agrandit, s'élève aussi en altitude. Ici, sur ce site, sont d'anciennes sablières, mais il y a aussi autour des terres agricoles. Et vous verrez sur le final, les terres agricoles, elles sont restituées sur le sommet des sites. Donc, vous voyez aussi la façon dont je présente mon travail. Donc, ça, ce sont des planches de travail. C'est comme des planches contact dont on travaille en argentique. Oui, je vais revenir justement parce que je parle d'argentique tout d'un coup. En fait, vous avez vu mes travaux précédents. J'ai fait un choix vraiment de vous montrer l'Observatoire et la Palestine, parce que il a bien fallu que je fasse un choix dans un parcours de presque 30 ans. Mais j'ai travaillé pendant plus de 25 ans en argentique, en noir et blanc. Donc là, vous connaissez la photographie argentique, je pense tout le monde. Avec en photographie argentique, on travaille avec un film. Donc c'est le film, c'est une matière vivante, c'est fait avec de la poudre d'os, et c'est une surface, un peu comme une peau. Donc moi, ça a été toujours ma méthode de travail, et j'y reviens aujourd'hui, mais pour photographier les terres, j'ai travaillé en numérique, et pour moi, ça avait du sens, d'abord parce que j'avais envie de travailler en couleur, j'avais envie vraiment de photographier des lumières, des couleurs, des matières, et puis aussi, la photographie numérique, c'est une toute autre qualité d'image. C'est un scan, si vous voulez, on va scanner en profondeur. Donc moi, pour moi, ça correspondait tout à fait à ce sujet. Et puis aussi, j'avais envie d'être très libre aussi, j'avais envie de travailler sans trépied, d'être très mobile. Et parce que dans ces sites, le regard, il travaille énormément, en fait. Quand vous regardez la Terre, en fait, je marchais pendant des heures dans ces chantiers à photographier la Terre. Je venais le soir, souvent après le départ des camions, parce que c'est très dangereux. Il y a des centaines de camions par jour qui viennent déverser de la Terre. Donc, je venais après le départ des camions, ou des fois, je venais très tôt le matin. J'ai beaucoup travaillé avec la lumière. Et donc, c'est vraiment donc la Terre. J'ai marché dedans. J'ai vraiment éprouvé la façon dont le sol bougeait, dont je voyais les lieux bouger. Je voyais et tout ça. Je l'ai foulé aux pieds. Je l'ai éprouvé, si vous voulez. Donc voilà. C'est juste pour vous parler du terrain, du travail de terrain. Donc je vous montre d'autres images, voyez. Donc j'ai voulu faire aussi des choses aussi très atmosphériques par rapport aux photos qu'ils ont dans le livre Terre ou sur les premières années où j'ai commencé à faire ces photos. J'ai vraiment travaillé avec un tel objectif. Je voulais vraiment rentrer dans le sujet, dans la Terre, etc. Après, en 2021, j'ai changé complètement d'optique. J'ai élargi le champ, j'ai élevé le regard. Donc j'ai plutôt fait du grand paysage à ce moment-là. C'est ce que vous voyez. Donc les photos, je les présente aussi sous forme d'ensemble. J'aime beaucoup ces ensembles. Je les trouve beaux en soi. Pour moi, c'est comme une image en soi. Et voilà. Donc je les ai. Je vous en montre quelques-uns. Vous voyez, là, je travaillais à la tombée du jour. Je trouve que les. Vous voyez bien les images. Je me rends pas du tout compte de ce que vous voyez. Oui. Voilà. Et là, donc c'est la façon dont j'ai présenté ce travail. Donc c'était cette année à la Triennale de photographie de Hambourg en Allemagne où j'ai présenté ces images des terres. Donc ça, c'est une partie de la présentation que j'ai faite là-bas. Donc vous voyez, j'ai choisi de montrer des ensembles. J'ai choisi de montrer des planches. Ici, je vous montre un extrait de. Vous voyez, un casier à l'intérieur d'un casier. Ce que je trouve très très beau, c'est que, enfin c'est très surprenant, c'est qu'il y a un côté anthropomorphique, on dirait un corps, et c'est assez surprenant en fait. Je trouve ça vraiment très beau, mais c'est vraiment une observation quotidienne qui permet de voir et de documenter et d'anticiper aussi ce que j'allais voir et de venir à certains jours, certaines heures, certaines lumières. Ici, je vous ai mis une image du livre. Donc, vous voyez, c'est le même lieu, exactement, que ce que vous avez vu précédemment, ce que vous avez vu dans les planches précédemment, puisque je reste toujours sur le même lieu dans cette présentation. Je vous en présente un seul. Et donc, là, vous voyez, c'était au début. C'était le tout début. On est en profondeur. Vous voyez on est en Seine-et-Marne. Hein, c'est un grand territoire agricole de l'Île-de-France. Et donc là, vous voyez le creusement, l'épaisseur de la terre. Et puis tout ça va se remplir et après va s'élever. Ici, une image qui illustre bien le propos du casier. Vous voyez, c'est toujours cette dimension de l'observatoire que j'ai reproduite ici, l'avant, l'après, un casier et puis la terre qui se déverse à l'intérieur. Exactement la même image fin 2021, avec le même casier qui se remplit. Et cette image voilà, de ce même casier. Donc moi, je trouvais ça très beau aussi. Je trouve qu'il y a une grande dimension esthétique aussi dans ces terres. Et pour finir ce premier PowerPoint, je vous montre ici quelques pages du livre. Donc ça, c'est un autre site, vous voyez. Si je vous ai montré cette page du livre et cette image en haut, c'est pour vous montrer. On est dans des images complètement différentes parce que c'est un autre lieu qui a une autre identité, une autre personnalité, je dirais. Moi, j'aimais beaucoup regarder les sites comme des entités à part entière, comme des entités. Là, c'est donc une page du texte de Claude Evenot, donc avec cette illustration. Il y a pas mal d'illustrations. Ça, c'est une vue de Bosch du Jardin des Délices. Donc, on va passer au deuxième PowerPoint. Je ne sais pas comment y aller. Là, hop, échappe.
Bien, je vais parler effectivement. Je vais même te poser une première question qui est sur la dimension politique. Tu l'as évoqué en parlant de l'arpentage des territoires palestiniens qui sont ô combien politiques. Quel lien entre un paysage où l'expression du politique est partout, le mur, l'absence, etc., et le Grand Paris dans une entrée en politique?
Mais disons, oui, c'est une dimension très politique, ces terres, puisqu'on étend un territoire. Ces terres excavées et déplacées, c'est aussi toute une économie souterraine. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser, puisque j'enseigne à Sciences Po, et je travaille sur Paris, sur le territoire de Paris, avec des étudiants. J'ai commencé en 2011, donc j'étais très informée déjà du projet du Grand Paris, du discours de Nicolas Sarkozy en 2009, qui a lancé le concours du Grand Paris. Donc je l'avais lu très attentivement. Déjà, tout était dit, tout était énoncé. L'extension de Paris, le Grand Paris, quand on ne parlera plus des banlieues, le changement du droit, le changement des lois, etc. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de se jouer aujourd'hui. Donc les terres, elles ont une dimension politique. Et en plus de ça, les terres excavées, donc c'est des quantités énormes. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces terres, qu'est-ce qu'on fait de ces lieux, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on en fait des choses pour vivre ensemble, est-ce qu'on en fait, comment on les gère, ces terres. Et puis il y a certaines terres polluées, il faut les dépolluer. Enfin, il y a toute une dimension aussi écologique là-dedans. C'est une question de santé publique aussi, ces terres. C'est une question, il y a des questions sociales, on peut parler de gentrification, puisqu'on est en Paris, on déplace les populations, etc. Donc ces terres, pour moi, elles parlent de tout ça. C'est dans ce sens-là que je dis que ça a une dimension politique. Et c'est un sujet absolument passionnant, parce que, encore une fois, à partir de ce sujet-là, on peut parler de tout un tas d'autres choses, de tout un tas d'autres sujets qui nous concernent tous. C'est ça que je trouve passionnant. Donc moi, mon travail, effectivement, j'ai voulu montrer des paysages. Je me suis acharnée justement à photographier déjà un paysage qui, en même temps que je le photographiais, il disparaissait. Vous voyez, contrairement à la mission de l'Observatoire du paysage, où c'était le fait de revenir toujours sur les lieux qui me permettaient de montrer la transformation, ici, c'est la transformation même que je photographiais. En même temps que je photographiais, ça se transformait. Donc, toutes ces images que vous voyez, tout ça, aujourd'hui, a disparu, parce que, par exemple, ce site-là, aujourd'hui, il est carrément pratiquement terminé. Il va y avoir une œuvre de land art, je dirais, entre guillemets, qui va se créer sur le sommet. Vous savez aussi que dans tous les projets d'urbanisme, enfin vous êtes sûrement plus informés que moi, il y a des codes, il y a des règles à respecter, il y a souvent des projets artistiques qui doivent être associés à des projets d'urbanisme pour pouvoir les mener à terme. Donc c'est le cas ici. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que vous aurez des questions à me poser, ça m'aiderait peut-être à vous parler. Voilà, j'essaie de vous dire le plus possible de choses, je ne voudrais pas m'égarer. Je vais peut-être revenir aux photos.
J'ai une question qui va probablement faire un lien, c'était la question de l'acceptation de différentes communautés, à la fois celles et ceux qui gèrent, mais c'est valable aussi pour le Proche-Orient, parce que je trouve assez intéressant de comparer, des communautés habitantes, quand il y en a, ou de proximité, de celles et ceux qui y travaillent, c'est-à-dire les conducteurs d'engins, tout ce rapport avec les gens qui sont physiquement à l'œuvre dans la transformation, sans forcément en avoir une conscience pleine et entière, ou en tout cas en étant des artisans de la transformation, et puis des institutions auxquelles il faut que tu t'adresses, parce qu'il faut le faire quand même, il faut aller chercher cette clé pour accéder au chantier, comme il faut aller photographier dans un contexte très tendu. On sait très bien que sortir un appareil photo près d'un mur en Palestine, c'est pas simple.
Oui, alors en l'occurrence, ces travaux ne sont pas des travaux de commande, hein, je tiens à le préciser, c'est un travail personnel, une démarche personnelle. Pour revenir aux terres, en fait, moi je me suis rapprochée du groupe ECT, donc qui m'a donné carte blanche et j'ai pu travailler avec eux. C'était formidable parce que j'ai vraiment fait ce que je voulais, donc effectivement j'avais les clés. Donc une fois que j'avais l'acceptation et l'autorisation de leur part d'aller sur leur chantier, je m'organisais comme je voulais, etc. Effectivement, je travaillais avec les chefs de chantier parce que c'est du terrain, donc il faut faire attention aux gens et les gens doivent faire attention à moi. Donc on a des codes quand on travaille sur des chantiers, il y a des codes à respecter, mais Ça, c'est le terrain. C'est très important parce qu'on peut mettre les autres en danger en se mettant soi-même en danger. Donc ça, c'est tout comme quand on travaille dans des pays en guerre aussi, c'est des questions de relations humaines avant tout. Donc tout ça, c'est le terrain. C'est le travail de terrain, c'est... Ça dépend du terrain. Chaque terrain est particulier. Donc, pour moi, travailler à l'étranger, travailler dans des régions très lointaines comme le Yémen, en plus, c'était une époque où il n'y avait pas les portables. Donc, quand je partais travailler au Yémen, on sortait des radars. Tout d'un coup, on était plus visible. On avait disparu. Donc, c'était... Vous voyez, le terrain, pour moi, aller travailler dans ces régions du monde, c'était énormément de travail en amont, c'était énormément de lectures de tout ordre, des lectures poétiques, politiques, historiques, de toutes sortes. Il fallait que je me prépare, que je sois armée, moi, pour partir loin et affronter des régions inconnues ou des régions où il y avait de la violence, etc. Donc ça se prépare. Ici, pour les terres, c'est une autre préparation. C'est être à l'écoute des gens, des chantiers, etc. Et puis c'est aussi, pour moi, la préparation, elle était dans un parcours de 30 ans, à photographier des conflits, etc., à m'intéresser au paysage, à l'observer, et avec la grande conscience qu'avec ce travail-là, je montrais Paris. Je m'intéressais à Paris, capitale aujourd'hui du 21e siècle, qui devient le Grand Paris, et qui se transforme d'une façon... exponentielle, mais gigantesque, mais tout ça sans qu'on le voit. Et donc ce sujet des terres, c'était un sujet pour moi extraordinaire, et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce sujet. Je vous montre quelques autres photos. Donc j'y vais en janvier 2021, tout début janvier. Je rencontre le chef de chantier qu'on voit ici. Vous voyez le site que vous avez vu dans l'image que je vous ai dit, l'image du livre où on voyait juste cette épaisseur de la terre. Eh bien, je me retrouve ici. Le site est comblé. Il s'élève. On fabrique un nouveau casier. Il fait très froid, il gèle, et là, je sais ce jour-là qu'il faut que je travaille avec la lumière. Je comprends immédiatement que mon travail va se passer à regarder la lumière, donc je décide aussi d'élever le regard à ce moment-là. Un peu plus tard, je reviens faire le tour du casier, donc vous voyez, je regarde l'intérieur, mais je regarde un peu l'extérieur. Et vous voyez, c'est une période de confinement, on est à Paris, mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Je suis près d'un aéroport, vous voyez. Cette dimension plastique, voilà, j'aime beaucoup cette image du haut. Ça me faisait, je pensais à Nicolas de Staël aussi à cause de ses masses, ses masses de couleurs. Mais je ne sais pas si vous avez bien conscience que là, on est à Paris, en plein Grand Paris, et que c'est confiné, et que, par contre, le BTP, ça travaillait vraiment plein pot à cette époque. Voilà. Je montre aussi les environs. Donc, vous voyez, je regarde le paysage. Je vous ai amené ici, je vous l'ai fait passer un petit peu rapidement, les planches, mes planches de travail, une partie des planches de travail sur ce site, parce qu'il y a beaucoup d'images. Vous pourrez me poser des questions ensuite. Vous voyez, je fais aussi des maquettes de travail. Dès que je travaille sur une session d'une journée, par exemple, je vais pendant 3 heures, 4 heures, je vais arpenter les lieux. Après, je travaille sur mes images, je constitue des planches et je constitue aussi des maquettes de façon très intuitive, très rapide pour avoir une mémoire. Ici, je vous ai mis quelques détails parce que ce que je vous montre, c'est des documents. Donc la période 2021, elle n'est pas publiée, elle est encore en chantier, telle que je vous la montre. Donc dans ces images, j'ai pris quelques détails pour vous montrer. Ici, vous voyez, il y a des choses aussi, je suis dans le paysage, donc je voyage dans ces espaces minéraux, je ne sais pas comment les nommer. Vous voyez, toujours ce travail sur la lumière, il y a un côté un peu désert américain dans ces photos. Donc là, je continue, on avance dans le temps. Je ne sais plus quelle période on est ici, donc écoutez, je ne vois pas. Mais on doit être en avril peut-être sur cette planche. On approche du printemps, mars, voilà. Donc, je m'intéresse aussi à la végétation spontanée qui pousse parfois sur ces sites, parce que en fait, ces terres profondes, les terres inertes, sont des terres qui n'ont qu'on parle de la période de l'Anthropocène, les terres de l'Anthropocène, c'est des terres qui n'ont jamais été touchées par l'homme. Elles étaient là il y a 3000 ans, si on ne les avait pas touchées, elles seraient là dans 3000 ans. Mais le fait de les sortir de terre et de les déplacer, elles sont tout d'un coup en contact avec tout un tas d'autres choses et elles se transforment. Et en l'occurrence, on fabrique des terres. Donc vous savez, le cycle terre, tout de suite, c'est un gros enjeu. Maintenant, la terre, ça devient une économie. Hein, c'est un matériau, c'est une économie. Si vous écoutez même les discours, donc c'est un statut de déchet. Si vous écoutez les discours politiques, etc. Moi, j'ai eu un moment d'attention au moment des élections présidentielles. Au moment du... Donc Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé, il s'est exprimé le dernier jour avant l'arrêt des prises de parole. Et je me souviens, c'était le matin sur France Inter avec Léa Salamé, quand elle lui a questionné quel est le projet de votre deuxième quinquennat, il a dit, donc ce sera la... je ne voudrais pas me tromper d'expression, mais c'était sur... le recyclage des déchets et sur le... Bon, attendez, les mots m'échappent, mais enfin, c'était ça. Et donc, moi, tout de suite, j'ai pensé aux terres. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous dire que la terre aussi, c'est un vrai sujet à Paris. Donc, ces terres inertes, elles se végétalisent aussi, elles deviennent des substrats. Donc, on appelle ça des technosols. Autrefois, c'était les agriculteurs, c'était les paysans qui fabriquaient les paysages. Aujourd'hui, ce sont des ingénieurs. Et ces substrats, qu'on appelle des substrats fertiles, c'est à partir des terres inertes qui sont associées à des composts, si vous voulez, ça devient une terre végétale. Et on les voit à Paris, on les voit par exemple, vous voyez les arbres, des fois il y a des arbres, on met de la terre autour. Cette terre, elle a un aspect un peu différent, on dirait un peu du carton. Elle n'a pas le même aspect que la terre qu'on connaît. Donc vous voyez, donc c'est d'autres planches de travail. Ici, une vue du site, toujours pendant le confinement, le site qui prend des formes et des aspects différents. D'autres planches de travail, vous voyez le casier qui se transforme, on voit l'arrivée des terres, on voit aussi les espaces extérieurs, je trouve ça très intéressant, quand vous vous intéressez à un territoire, parce que c'est des territoires circonscrits, de voir aussi ses bords, ses marges, ses limites. Encore une image, vous voyez, donc là je vous passe plusieurs photos extraits de ces planches. Là vous voyez bien les terres des tunneliers, ces grandes coulées bleutées, une autre... Je continue avec... Donc là, je travaillais aussi le soir à la tombée du jour, les soirs de pleine lune, parce qu'il y a une grande clarté. Ça, c'est une autre... Vous voyez, c'est des choses très abstraites. C'est une photo que Claude Evenot aimait beaucoup, celle-ci. D'autres vues. Donc la planche que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai exposée, celle-ci. Ça, c'est une maquette, au départ. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail sur le temps. Donc, je suis là constamment. Et dans les planches, vous voyez aussi des fois l'ombre portée. Donc, vous voyez ce personnage aussi qui permet d'avoir un repère parfois. Ici, une planche. Alors, ça, c'est un document, je dirais pas très esthétique, mais très technique, où on voit l'intérieur du casier et l'extérieur. Je dirais plutôt que c'est un document d'urbanisme. Ici, l'évolution dans le temps aussi, avec d'autres atmosphères. Là aussi, il y a des moments, j'avais l'impression d'être dans des marines, on aurait dit des ciels de mer presque sur la terre. Là aussi, des photos à la tombée du jour. J'aime beaucoup ces ensembles, ces paysages, justement, cette accumulation, une accumulation du temps, une accumulation des espaces. Voilà, j'ai choisi de vous montrer un petit peu une somme, même si c'est une somme très, très réduite sur l'ensemble, pour que vous ayez une conscience un petit peu de ce que c'est qu'une observation. Et puis voilà, à chaque fois, donc j'extrais des images, je monte des séries. C'est tout un travail qui se passe à l'intérieur de ces ensembles pour construire le travail, soit une exposition, soit un livre. Voilà, à l'extérieur. Donc là, ici, vous voyez, je suis à l'extérieur du site avec les terres. Vraiment, là, c'est les dernières terres, vraiment les terres. Et ces terres, donc j'y suis retournée en juin 2022 sur le haut du site. Et en fait, les terres que vous voyez ici, elles ont été déplacées sur le sommet. Voilà, on arrive à terme. Donc une des dernières vues que j'ai faites en fin d'année, donc en hiver. avec un nouveau casier qui s'étend, une création d'un autre casier en continuité du précédent. C'est une photo faite au petit jour. Voilà. Et ici, voilà, c'est ces terres que vous avez vues en bas du casier, donc qui sont là déplacées en 2022 sur le sommet du site. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour les images.
Merci pour ce passage. J'ajoute quelques remarques. Il y a une entrée, mais tu l'as déjà évoquée. Tu t'es beaucoup intéressé au fond photographique de l'école biblique archéologique. Tu as mené ce travail et systématiquement, vis-à-vis de ton travail, donc esthétique, plastique, artistique, il y a aussi l'idée d'archiver, l'idée quasiment instantanément de constituer une mémoire, parce que ce sont des paysages qui sont traversés par des fulgurances de transformation et que l'image, elle, pour le coup, a une valeur d'archive importante.
Oui, absolument. Je suis face à une disparition, à une transformation. Donc c'est vrai que c'est un peu de l'archéologie à l'envers en l'occurrence, mais oui, cette dimension d'archive, elle est très importante quand on s'intéresse justement au paysage. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Mais ce qu'il y a, c'est que cette dimension d'archive, d'accumulation, elle permet après de regarder. Parce que ce que je vous disais, c'est que le regard travaille énormément quand on est sur les sites. Il y a une espèce d'éblouissement. Et puis, il y a aussi le contact physique avec la terre, ce qui fait que moi, je suis en train de marcher. Quand les casiers se fabriquent, il y a des moments, les terres sont très meubles. J'arrive, je marche dans quelque chose qui vient de se fabriquer. C'est comme un château de sable, si vous voulez. Donc, vous marchez dans quelque chose de très meuble. Et puis après, je reviens et je sens que la terre a durci. Et puis, je suis complètement toujours prise par quelque chose du contact très direct avec la terre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment une relation très directe à la terre. Donc, toute mon attention, elle est portée sur cette relation. Et en même temps, cette relation très directe au sol et cette relation très directe aussi à la lumière. Et à la fois, je suis obligée d'observer tout ce qui se passe. Et c'est très, très vaste, c'est très grand, ces espaces. Donc, si vous voulez, je suis obligée de faire des images. En même temps que j'éprouve, que je regarde, je photographie et je constitue une mémoire. Et après, tout le travail va consister à partir de cette archive que j'ai constituée, en fabriquer à inventer des formes plastiques pour la montrer aux autres, donc pour partager cette expérience. Donc ça va prendre soit la forme d'un livre, ce que j'ai fait avec Claude, soit ça va prendre la forme d'un film, je ne sais pas. Donc toute cette partie 2021, elle reste à explorer, mais j'ai un projet peut-être à partir du film, je ne sais pas encore. Mais donc ça veut dire, cette archive va me permettre de créer une forme plastique ou une forme livresque, ou en tout cas trouver une façon de restituer une expression de ce territoire, je dirais.
Merci beaucoup. Est-ce que on peut prolonger la discussion avec des questions, oui.
Merci beaucoup pour cette très très belle présentation. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de ce qui se joue sur ces sites-là, du projet du Grand Paris, de son ampleur, et parce que là, jusqu'à ce qu'il y ait, on voit les engins. Moi, j'avais du mal à prendre la mesure de ces casiers. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler justement de ce que c'est que ces casiers et de ce qui se fait ici, et de nous expliquer peut-être un peu plus ces terres-là qui ressemblent à des bouts, et pourquoi qu'est-ce qu'on y fait en fait sur ces sites, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi on creuse autant. Enfin, c'est vrai que c'est gargantuesque, quoi. Voilà.
Oui, merci pour cette question. C'est vrai que la question de l'échelle, on a, c'est, je pourrais, il faudrait que je revienne à la précédente où on voit des fois un camion qui est déjà un camion énorme en soi, qui est tout petit comme un petit point dans ce décor. En fait, oui, c'est gargantuesque, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui joue sur ce site-là en particulier? Parce que chaque site, il y a des sites qui vont devenir, par exemple, des sites situés près de villes nouvelles, comme il y en a au sud de Paris. Ça va devenir des lieux qui vont, donc ça va demander des nouvelles collines, il y a des nouvelles montagnes, si vous voulez, qu'on croit que ça a toujours existé, mais c'est artificiel. Il va y avoir des parcours santé, il va y avoir des terres qui sont rendues au pays, enfin, qui vont redevenir des terres agricoles. Sur certains terrains, ça va devenir des zones photovoltaïques. Ça dépend des lieux, des parcs pour que les gens aillent se promener, enfin, etc. Il y en a d'autres qui sont où on réserve des espaces pour la préservation de certaines espèces d'oiseaux rares, etc. Il y a tout un tas de... Il y a quand même quelque chose de vertueux à travailler sur ces espaces. Ici, sur le site de Villeneuve-Soudamartin, dont je vous ai montré les images, en fait, c'est vraiment un site très, très grand, qui s'étend de plus en plus. Et donc, en fait, à terme, et en plus, il est entouré d'espace, puisqu'il est près d'une zone aéroportuaire. Donc, ça renforce encore cette dimension d'isolement, d'espace, de désert, etc. Mais... en l'occurrence, au final, il va y avoir une œuvre de Land Art sur le sommet, réalisée par un architecte qui s'appelle Antoine Grimbach, qui s'appelle Les Yeux du Ciel, et qui va restituer une œuvre qu'on pourra voir quand les avions vont atterrir, vont passer au-dessus. Donc c'est... Voilà. Et donc il y aura, je crois, un circuit pour les touristiques avec des expositions destinées à l'observation du ciel. Voilà. Donc voilà, c'est un projet à terme sur ce site. Paris devient le Grand Paris, ok ? On creuse le sous-sol de Paris pour construire de nouvelles... Dès qu'on construit une maison, il faut creuser pour construire des fondations. Il y a toujours de la terre quand on veut creuser, quand on veut construire, ok ? Mais là, en l'occurrence, la création du Grand Paris Express, le futur métro parisien, c'est 200 km de ligne. Donc ça génère des quantités de terre, ces terres bleutées, les terres des tunneliers, c'est des terres extraites pour la création du futur métro. Et donc, c'est des quantités de terre titanesques. Je vous dis, c'est 45 millions de tonnes de terre à terme pour la construction de ce métro. Donc, c'est ce qui est apporté dans ces casiers. C'est ce que vous voyez à l'image. Comment se représenter ? L'image qu'on a des terres excavées, la seule image qu'on a dans notre imaginaire, par exemple, c'est les terrils du Nord-Pas-de-Calais, les terrils du nord de la France à l'époque des mines. Vous savez, ces grandes montagnes de charbon qui ont été la plupart effacées et enlevées du paysage, mais il en reste quand même quelques-uns. Ça illustre ce que c'est que l'extraction. Extractivisme, hein. L'extractivisme, c'est l'extraction à grande échelle. Et c'est ce qui se passe à Paris, sauf que ça ne devient pas des terrils, sauf qu'on en fait des infrastructures en terre qui deviennent des, on appelle ça des monts de Gaulle, des nouvelles collines, des nouveaux espaces. Ici, vous voyez la construction d'une infrastructure. Ces paysages sont fabriqués par des ingénieurs, ils ont des formes, parce que là, il y en a qui sont aussi, par exemple, un autre grand site qui est très très grand, qui est entre des lignes de haute tension, coincé entre des voies ferrées, des lignes TGV. C'est des lieux très difficiles, très complexes à photographier. Mais tout ça, l'espace, le paysage se modifie complètement. Et donc en fait, ces lieux sont des paysages complètement fabriqués à partir des terres excavées.
En fait, il faut vraiment partir du principe que le casier, c'est une unité de mesure d'une quantité de terre. Et donc, chaque casier est rempli et permet de quantifier la quantité. C'est très technique, très scientifique. Les terres sont calibrées, elles sont stérilisées. Tout ça est très suivi, il y a un contrôle très drastique. Et le casier est une unité de mesure. Donc c'est vraiment une empreinte terrestre qui va être comblée, et à chaque fois qu'un casier est comblé, il y a un certain volume de terre qui est utilisé pour ça. Et cette terre provenant elle-même du Grand Paris et ayant elle-même une composition physico-chimique très particulière, puisque broyée par les fameux tunneliers.
Ce qui m'a intéressé aussi au début, c'était le vocabulaire des terres. C'est quelque chose que j'ai découvert, moi, photographier de la terre, bon... Mais il y a tout un vocabulaire des terres. Il y a les terres inertes, il y a les terres mouillées, les terres des tunneliers, il y a les gravats, les gravatriers. Enfin, et puis elles ont des terminologies K3. Enfin, elles ont des termes techniques, en fait. Je trouvais ça passionnant de voir tout ce vocabulaire qui se déployait autour de la terre. Mais si ça vous intéresse, je peux vous lire le contenu du site, là. Attendez. Donc, le site de Villeneuve-Soudamartin, donc ça, c'est la fiche technique du site établie par ECT. Donc, le site de Villeneuve-Soudamartin est une ancienne sablière, désormais comblée, qui aujourd'hui surplombe la RD 401 et son alignement d'arbres rectilignes. Le site est situé sous les pistes nord de l'aéroport voisin de Roissy-Charles-de-Gaulle. Au milieu des champs, de hautes cultures et de betteraves, l'endroit est à l'écart du village de Villeneuve et du hameau de Stein, qu'il domine comme un nouveau monde de Gaulle. Le site de Villeneuve est unique par sa taille. Il est emblématique des flux de métabolisme urbain des terres excavées régionaux. Depuis les années 2000, il reçoit les terres des très nombreux chantiers de la construction francilienne. Et depuis quelques mois, les terres si particulières des tunneliers du Grand Paris Express, des terres aux couleurs froides, déstructurées et pâteuses, aux molécules brisées. Une grande partie du site est achevée et présente des terres agricoles cultivées, des bois, un verger, des ruchers, un site de récréation au milieu d'un naturel favorable à l'Eurydème criard, c'est un oiseau. On y croise aisément des lièvres, des chevreuils et des sangliers. En 2024, vont se dessiner sur son plateau sommital les yeux du ciel, une œuvre de Land Art d'Antoine Grambach. Les deux yeux longs de 400 mètres de long regarderont le ciel et pourront être vus des voyageurs aériens et être visités à terme par le public. Donc ça, c'est la, si vous voulez, c'est le dépliant du site. Donc c'est une autre façon de parler des terres. Mais voyez, est-ce que vous comprenez mieux, toi qui as posé la question, est-ce que tu arrives à te représenter ce que c'est que l'extractivisme? Donc, parce que c'est vraiment de l'extractivisme à grande échelle, ce qui se joue à Paris.
Oui, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question un peu personnelle. Comment vous gérez la dissonance possible entre l'absolue beauté de ce que vous produisez avec toute votre sensibilité et ce que ça représente du système auquel on appartient et qui continue à se déployer, mais qui, comment dire, qui n'est pas viable à terme et qui, enfin, à quel point c'est les derniers à-coups du développement à ce point soutenus par l'économie thermo-industrielle, on ne sait pas, mais jusqu'où ira le Grand Paris? Enfin, ça pose toutes ces questions-là. Voilà, votre réflexion personnelle là-dessus.
Bonjour, merci beaucoup de cette question, parce qu'effectivement, c'est vrai que, vous voyez, si je suis là aussi ce soir, si j'étais très contente de répondre à cette invitation, c'est parce que j'ai envie de partager avec vous ces questions que je me pose aussi, moi. Et en fait, si je fais tout ça, c'est pas pour la beauté du geste non plus, c'est pas juste ça, c'est parce que ça a du sens, avant tout. Et l'important pour moi, c'est de le partager, de réfléchir, et j'ai très envie aussi de travailler en collectif pour pouvoir réfléchir à des enjeux, justement, à des enjeux dont je vous parlais tout à l'heure, à nos enjeux, qu'est-ce qu'on fait pour nos vies. Et ça, c'est un sujet, justement, qui permet d'y réfléchir. Et c'est un sujet qui n'est, si je l'avais pas photographié, comment en parler? Si ce n'est de le dire un concept ou une phrase dans un livre, ou dire il y a eu l'extraction des terres, etc. Vous voyez, le fait de l'avoir photographié, de m'être acharnée pendant ces années à regarder, à faire cette archive, ça permet aujourd'hui peut-être de s'en emparer de cette archive et puis d'y réfléchir ou d'y revenir ou de la regarder plus attentivement et y voir des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, hein, dedans. Donc, vous voyez, on fait jamais les choses pour rien. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est aujourd'hui de pouvoir de travailler avec d'autres gens sur cette réflexion politique du territoire, du paysage, simplement de ce que c'est que la terre comme base, la terre faite pour vivre ensemble et pour y construire nos vies. Donc, pour moi, ça c'est c'est l'essence même du paysage. Vous voyez, mais c'est mon but. Je suis pas du tout une photographe activiste. C'est pas du tout je suis pas du tout dans ce registre-là. Pour moi, c'est quelque chose de trop violent. Je suis pas du tout dans ce propos. Mais par contre, je suis quelqu'un qui peut-être qui alerte et qui par les sujets que je photographie permet de témoigner, en tout cas, de certains états du paysage ou de certains états de certaines causes ou de certaines voilà de certains enjeux économiques ou politiques. Je vous ai dit pas mal de mots en présentant. Je vous ai parlé d'économie souterraine. Je vous ai parlé de façon. J'essaie de parler à ma manière de choses graves, je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas une politique. Je ne suis pas une urbaniste. Je ne suis pas une architecte. Je suis une photographe, mais je suis une photographe engagée dans les sujets dans les missions que je réalise en tout cas. Et voilà, pour moi, c'est important de vous le dire. Merci de cette question.
Oui, bonjour. En urbanisme, on parle de zéro artificialisation nette pour éviter de construire sur les terres agricoles. Ma question, c'est est-ce que vous avez aussi photographié à plus petite échelle, enfin à plus grande échelle du coup, sur la vie que vous pouvez trouver sur cette terre? Est-ce qu'on est toujours sur une terre ou est-ce qu'on est plus sur un support, sur un matériau? En d'autres termes, est-ce que on n'est déjà pas en train d'artificialiser un sol? Un sol dépourvu de vie ou avec beaucoup moins de vie, et du coup remettre des agriculteurs sur ces parcelles, est-ce que c'est... Enfin, ma question est plus portée sur est-ce que vous avez regardé de la vie dans ces sols-là, mais après le débat augmente aussi sur les futurs agriculteurs de demain, ceux qui cultiveront pour la ville, est-ce qu'ils auront un sol fertile ou est-ce qu'on n'est pas en train de recouvrir par des sols moins fertiles des terres qui le sont?
Oui, merci. Comment répondre? C'est très troublant cette question parce qu'effectivement, j'y ai beaucoup pensé. Déjà, les terres fertiles, elles sont déplacées, après on les remet au sommet, ok? Les terres qui sont amenées dans ces chantiers, elles sont déjà tracées. Elles sont, c'est pas des terres polluées, etc. Mais effectivement, moi, quand je marchais pendant des heures dans ces terres, parce que je marche que dans de la terre, hein, j'étais souvent. Des fois, il n'y a pas d'odeur, par exemple, l'odeur de la terre. Vous savez, ou l'odeur de la terre après la pluie, ou ces choses-là. Il n'y a pas d'odeur dans ces chantiers. Il n'y a pas cette odeur de la terre. La terre, il y a quelque chose, une sensation très spéciale. Il y a des moments où je pouvais sentir plus la terre parce qu'il y a quand même une odeur à un moment qui vient, mais c'est pas l'odeur qui s'impose comme ça qu'on connaît. Et d'ailleurs, je la sentais pas vraiment. Mais des fois, le lendemain ou le soir, quand je suis devant mon ordinateur et que je regarde toutes les photos, pouf, j'avais des bouffées d'odeur aussi qui arrivaient à moi. Voyez, donc comme quoi l'image, elle induit quelque chose. Mais c'est vrai que cette terre, je voyais bien que c'était une terre qui n'avait jamais été touchée. C'était une terre vierge. C'était ça qui était beau dans cette histoire aussi pour moi, c'est-à-dire que je voyais quelque chose qui n'avait jamais été vu. Encore, qui n'avait jamais été touché par l'homme et qui venait du fond, quoi, de la terre. Donc ça m'a beaucoup émue. C'était très très fort. Et justement, c'est pour ça qu'après, sur cette terre, elles arrivaient de. Et ce qui était beau aussi, c'est que les terres, elles arrivaient de tout un tas de chantiers de Paris et d'Île-de-France. Et les terres arrivées sur ces chantiers, elles se mélangent entre elles. Donc il y avait tout ce mélange aussi qui se passait, qui se jouait sous mes yeux. Donc tout ça, je l'ai photographié. C'est pour ça qu'il y a des moments, il y a plein de couleurs qui se mélangent, il y a plein de choses. Puis aussi, il y a des moments, il y a des grabats. On met des grabats, des choses qui viennent plus des chantiers pour solidifier à des moments la structure. Enfin, toutes ces choses, je les ai photographiées. Je ne vous ai pas mis toutes les planches, mais c'est vrai que j'ai tout regardé. J'ai photographié le sol, j'ai photographié l'espace et ce qui montait en altitude et ce qui était au fond des casiers. Mais j'ai aussi regardé ce qu'il y avait, sur quoi je marchais, aussi bien les gravats que la végétation spontanée, que toutes ces choses-là, les zones humides et tout ça, je l'ai photographié, oui. Mais c'est très troublant, effectivement, votre question. Ça se pose des questions, oui, justement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se joue? Parce que la terre, c'est aussi beaucoup d'argent. Quand je parle d'économie, tout ça, ça a un coût. Et voilà. Donc, j'aimerais beaucoup écrire aussi. Moi, c'est un projet que j'ai, d'écrire sur ce que j'ai ressenti, ce que j'ai éprouvé à faire ce travail pendant toutes ces années. Je cherche activement un moyen de le faire. Mais voilà, et c'est vrai que quand j'ai voulu chercher à écrire aussi, quand on fait des présentations, ça demande des investigations. Mais il faudrait, j'y ai beaucoup réfléchi, il faudrait y travailler en groupe, y réfléchir ensemble, parce que justement, la question du coût, la question de l'argent, c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut réfléchir sur le territoire. Ça, c'est une parole que j'ai, moi.
Juste pour rebondir sur la question, est-ce que toi, en arpentant, comme tu tu l'as fait régulièrement. Est-ce que tu as pu constater qu'une végétation spontanée s'installait? Est-ce que tu penses que c'est quand même un substrat, tu l'as dit, qui va supporter de la vie végétale à terme? Moi, je pense essentiellement aussi effectivement au système racinaire, comment ça se développe, un système racinaire profond dans un sol qui, visiblement, n'en a jamais côtoyé.
Bien, écoutez, moi j'ai vu des espaces qui sont revégétalisés. Enfin, c'est très beau. Il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a des animaux, il y a des ruches, il y a des oiseaux. Donc, je pense que les gens qui fabriquent ces sites, en tout cas, ils ont justement ce que je disais. Ils ont quand même une action. C'est un cercle vertueux. Donc, je pense qu'ils prennent toutes les précautions. Et justement, il y a quelque chose de beau aussi dans ces chantiers, même si c'est des chantiers très techniques, fabriqués par des ingénieurs. Il y a quand même quelque chose d'une certaine beauté, puisqu'il y a une précaution quand même qui est prise. Mais le fond du sujet, moi je ne suis pas à même de vous en parler, mais je peux y réfléchir, j'ai beaucoup de clés. Mais je pense que, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des zones qui sont redonnées à l'environnement, qui sont redonnées à la végétation, qui sont redonnées à la culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la politique de l'Île-de-France, il y a quand même la notion du vert en ville est très présente. Alors, à savoir, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est pas mon propos, mais c'est quand même des choses qui se jouent. Et l'espace, en tout cas, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'actions de la part des populations civiles pour conserver les espaces agricoles en Île-de-France.
La première question, c'est dans le même registre, parce qu'on s'inquiète quand même toujours de la disparition des terres agricoles. Donc vous avez répondu partiellement. Et la deuxième question concerne le choix des terres, disons le tri des terres. Je ne sais pas si vous avez eu des explications sur ce qui se fait au niveau des terres qui sont reversées. Et il doit y avoir certainement un tri, parce qu'on doit trouver, on n'a pas la terre des tunneliers. On peut traverser, par exemple, du chips, disons des matières qui peuvent être tout de suite utilisées, reconverties dans le bâtiment. Et puis des terres plus ou moins riches, des terres dont on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose au niveau agricole, et d'autres, on ne sait pas tout de suite. Enfin, je pense que les ingénieurs ont quand même, je pense, étudié les terrains. Voilà. Mais est-ce qu'on vous a expliqué le tri qui est fait de parce que là, vous avez dit les terres sont mélangées, d'accord. Il y a des gravats, sans doute, pour que ce soit pour maintenir une certaine stabilité. Puis il faut bien les mettre quelque part. Mais est-ce que vous avez eu accès à quelque chose de plus détaillé sur ce qui se fait en amont? Vous savez, entre la construction du tunnel et puis l'arrivée sur place.
Toutes les terres qui sont amenées sur les chantiers sont des terres qui ont été... Les terres sont triées. Toutes les terres qui rentrent sur les chantiers, c'est qu'elles sont, elles n'ont pas de pollution ou elles ont un seuil de pollution toléré. Mais bien sûr, les terres sont triées et elles sont séparées. Les terres qui sont polluées, elles sont séparées. Et les terres, elles viennent... Donc justement, il y a toutes ces... Je pense que suivant la qualité des terres, elles vont sur un site ou sur un autre. Mais il y a aussi ce qui s'est joué pendant ces trois ans, c'est qu'il y avait... Ça allait très vite. On extrait beaucoup de terres, mais tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut les amener sur les sites. Mais par rapport à votre question exactement du tri des terres, des qualités des terres, je ne peux pas vous répondre là parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je peux avoir accès. Bien sûr, j'ai accès les taux de nitrate, etc. Je peux les avoir. Là, je ne les ai pas. Je ne peux pas vous en parler ce soir. Mais en tout cas, il y a un traçage des terres. C'est extrêmement bien suivi et les terres sont tracées et voilà, les terres polluées sont dépolluées, etc. Il y a des lieux qui les réceptionnent. Et c'est pour ça qu'aussi, le Grand Paris, il y a des papiers régulièrement. Ça a un coût, ça coûte très cher, parce qu'il y a beaucoup plus de terres polluées que ce qui était aussi peut-être prévu. Et donc tout ça, la dépollution, ça a un coût aussi. On revient toujours à l'argent. Tout ça, ça a un coût. Donc, mais les terres, bien sûr, sont séparées. Oui.
Bonsoir. Merci pour cette présentation. Vous nous avez bien expliqué que vous avez réalisé ce travail pendant le confinement, donc je me doute que vous n'avez pas vu beaucoup de monde. Mais est-ce que vous savez quel est le regard des habitants sur ce chantier-là? Parce que vous avez votre regard de photographe, mais je pense que les habitants ont sûrement des choses à dire. Peut-être qu'ils ne voient pas ce projet d'un bon œil. Et donc je voulais savoir si vous avez une idée de qu'est-ce que les habitants en pensent de ce changement dans le paysage. Et peut-être aussi, est-ce que votre travail a apporté... une pierre à l'édifice pour le débat sur ce projet.
Merci. Ouais, c'est une bonne question, justement. Écoute, difficilement, parce que effectivement, toi, c'est des zones très isolées. Donc, effectivement, moi, j'ai vu des gens, par exemple, j'ai vu les agriculteurs qui cultivent ces immenses terres d'Île-de-France. C'est magnifique, la Seine-et-Marne, c'est absolument magnifique. Et je me souviens, un jour, je tournais autour de ce site et je parlais avec l'agriculteur qui était sur des grandes machines. Et je disais, mais ces terres, elles étaient magnifiques, les terres. Et il me disait, oui, nous, qu'est-ce qu'on a aimé travailler ces terres? Qu'est-ce qu'on a aimé les travailler? Vous voyez, il y avait beaucoup de... On est tous conscients, on voit ce qui se passe, mais il y a une espèce de... Et alors, directement avec les populations, j'ai discuté avec la maire de Villeneuve. Oui, il y a des questions de la part des habitants, ils aimeraient bien savoir comment ça se passe. Pour ça aussi, j'ai fait des photos. Donc, j'avais des projets d'exposition dans les mairies, qui ne se sont pas encore faites. Donc, par contre, oui, moi, j'aimerais beaucoup partager avec les populations ces photos. Voilà, donc c'était un projet qui est toujours en attente. Voilà, puis j'avais un projet aussi à la préfecture de Paris pour montrer ce travail qui ne s'est pas fait parce que pour une raison technique de panne d'imprimante. Donc j'ai été entravée par beaucoup de choses pour montrer mon travail. C'est pour ça que je le publie, que je le présente et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Voilà. Mais c'est vrai que ça questionne beaucoup les gens, hein. Les gens qui vivent autour, et notamment en Seine-et-Marne. Vous savez qu'en Seine-et-Marne, il y a beaucoup de décharges. On dit que c'est la poubelle d'Île-de-France. Enfin, il y a une espèce de cliché comme ça sur la Seine-et-Marne, mais qui est aussi une réalité. Et donc, c'est vrai que les populations, elles sont... Oui, puis il y a eu pas mal aussi de journaux qui ont fait des papiers un petit peu critiques là-dessus. Enfin, même pas mal, qui attaquaient pas mal les sujets. Hein. Bien sûr, ça pose question. Et c'est pour ça aussi, la photographie, ça permet de voir, ça permet de montrer, ça permet aussi de comprendre. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est importante aussi.
S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en pose une et je te passe la parole après, Olivier. Tu nous as parlé des observatoires photographiques du paysage qui t'intéressent particulièrement. Est-ce que tu vas continuer ce travail sur ces sites? Parce qu'en fait, la plupart du temps, sur un observatoire, on part à un instant actuel, qui est déjà anthropisé, qui est déjà habité, qui a déjà plein d'usages. Et là, tu nous expliques, finalement, tu nous montres des sites où on a une sorte de temps zéro par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est intégralement fabriqué. Donc, est-ce que tu vas continuer ou comment tu t'envisages la suite par rapport à ça? Parce que c'est assez... Même les terrils, hein, qui étaient aussi sur des sols inertes comme ça au départ, on les a pris en cours de route. Il y a assez peu d'observatoires qui ont gardé la trace de ces terres excavées. Donc là, il y a une hypothèse de quelque chose de nouveau en termes d'observatoire. Donc, est-ce que ça va te donner des idées?
Oui, merci. Disons que je ne sais pas. Pour l'instant, j'en suis au questionnement. Disons que c'est un espèce d'observatoire à l'envers. C'est ce que je disais. Là, ce que j'ai photographié, c'est vraiment le moment de la transformation. Donc, c'est une transformation. Après, l'observatoire, une fois que ce site sera fini, ça sera un lieu touristique, en gros. Bon, je pourrais aller au bout de l'observation de la structure, de l'infrastructure de ce site, qui est quasiment terminée. Pourquoi pas aller continuer à photographier ces sites une fois qu'ils ont intégré le grand paysage. Moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est de montrer cette transformation du grand paysage. Parce que ce que je photographie, c'est un paysage qui se transforme et qui transforme lui-même le grand paysage. C'est ça qui est aussi intéressant à comprendre. Et oui, pourquoi pas continuer? Après, c'est une question de moyens. Donc, c'est tout ça. Ça, c'est une question aussi. Et voilà. Et en l'occurrence, je me suis intéressée beaucoup à la terre. J'ai vraiment envie de m'intéresser aussi à d'autres éléments comme l'eau aujourd'hui. Mais ce sujet-là de la terre, je voudrais vraiment le mener à bout en ayant un échange, en construisant justement sur cette année 2021 une réflexion à partir de ce sujet et en écrivant aussi sur ce que j'ai éprouvé à faire ce travail. Donc pour moi, l'observatoire, c'est ça, c'est plus donner des clés pour que d'autres observations se fassent à partir de ce travail. C'est comme ça que je le sens, en fait.
Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Je travaille plus particulièrement pour mon année de diplôme sur le territoire de l'aéroport, et y compris sur le site de Villeneuve-Soudamartin et le CT. Et je me demandais si, selon vous, le site qui a servi un peu de réceptacle à un projet qui se joue finalement ailleurs, enfin qui se joue pas sur le territoire qui est concerné par les terres qui sont reçues et qui sont invisibilisées malgré la grandeur du site, peuvent permettre. Est-ce que le territoire qui les accueille peut tirer parti de cette activité? Et est-ce que ça permet, par exemple, est-ce que ça pourrait permettre de voir le territoire autrement, peut-être de regarder le territoire de la Seine-et-Marne aussi différemment par l'arrivée de ces projets qui aujourd'hui peuvent sembler subis, mais dont on pourrait peut-être tirer parti à l'avenir?
Oui, merci. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, je suis pas vraiment. Effectivement, ce qui se joue là-bas, c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Ça, c'était très bien de le rappeler. C'est dans ce sens-là que ces terres ont une dimension politique, parce qu'on étend un territoire, on transforme un territoire, donc et on. En déplaçant simplement le support de ce territoire. Après, les populations, ça, c'est les collectivités locales, ça, c'est des enjeux politiques, c'est des jeux politiques, je pense qu'il faut, c'est vraiment des enjeux politiques. Je peux pas répondre, je sais pas qu'est-ce qui se joue, moi, entre la maire de Villeneuve-Soudamartin, la région de Seine-et-Marne, la région de la métropole du Grand Paris. Vous voyez, c'est des enjeux de territoire, des enjeux financiers, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. C'est tout ce que je disais au départ. C'est tout ce que ce que ces terres évoquent pour moi. Elles évoquent toutes ces questions-là. Mais moi, je ne peux pas vous répondre parce que je ne peux pas parler à la place des gens. Et c'est vrai que c'est des gros enjeux politiques, oui.
On prend peut-être une dernière question avec Olivier, ou s'il y a d'autres personnes qui veulent. Bon, Olivier, puis.
Oui, merci, bonsoir. Il y aurait beaucoup de questions à poser, mais en fait, je n'arrive pas vraiment à trouver la formulation qui pourrait devenir une question. Ce qui me frappe beaucoup en vous écoutant, et notamment à certains moments de votre exposé, vous avez dit, là c'est autre chose, c'est un document d'urbanisme quasiment, quand on a vu l'extérieur du fameux casier. Et du coup, je me demandais, par rapport à votre intention, quoi, votre travail d'artiste, de photographe, pourquoi, au fond, peut-être que c'est pas possible de répondre justement, mais cette obsession d'avoir été tournée vers l'intérieur de ces casiers, là où effectivement, et toutes les questions vont un peu dans ce sens-là, finalement, on a envie quand même de comprendre les interactions avec ce qu'il y a autour, quoi, et notamment les gens, pas seulement les habitants, d'ailleurs les riverains et la population concernée ici, elle est quasiment nationale et internationale. C'est pas que les habitants du village à côté, en fait. Donc c'est vrai qu'on est frappé par ça, et du coup, est-ce que c'est, enfin. Ça a l'air d'être très volontaire, assumé. Et je ne sais pas si vous avez envie de répondre à ça, mais vous constituez ces archives, comme vous dites, pour qui, au fond? Et moi, je trouve une des façons, alors non pas de répondre à votre place, mais des choses qu'on a envie de savoir, c'est vous montrer des choses qui sont peu visibles, voire invisibilisées, comme ça a été dit dans la question d'avant. Et en fait, ça pose plus de questions que de réponses. Et on ne voit pas grand-chose, si j'ose dire, d'une certaine manière. Donc on voit beaucoup effectivement de très très belles photos. Cette beauté est dérangeante, en partie. Et quand on revient toujours à dire que ce sont des questions politiques, je ne suis pas, moi, engagé dedans. Enfin, voilà, il y a une forte hésitation dedans. Donc prenez-le comme vous voulez, la question, et faites-en un prétexte à rebondir. Mais voyez, en fait, vous avez commencé à répondre, mais j'aimerais bien savoir la suite. Quelle intention vous avez avec cette archive en constitution? Il y a eu un projet assez beau qui s'appelait Archive. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est de. Je n'ai pas le nom de l'auteur en tête, malheureusement, mais c'est aussi une photographe qui a travaillé sur toutes les démolitions en Île-de-France et qui a documenté, justement, alors notamment les grands ensembles, mais pas seulement, les sites qui étaient promis à démolition et qui a fait des petits carnets avec, donc des objets qui circulent et qui sont, d'une certaine manière, dans une circulation un peu, comment dire, un peu souterraine, quoi, un peu parallèle, qui ne sont pas dans des circuits justement juste d'exposition, etc. Donc est-ce que ça ne pourrait pas être un projet, finalement, avec ces images-là, d'en faire une sorte d'édition pas chère, low-tech, à faire circuler pour qu'on en débatte, finalement, qu'on en discute? Parce que vous n'avez pas forcément effectivement un point de vue articulé dessus, en tout cas, vous ne souhaitez pas le prononcer publiquement, on le comprend, ou on le devine, voilà. Vous allez nous répondre. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, merci pour cette remarque et cette réflexion et cette question. Oui, je suis tout à fait d'accord déjà. Donc, écoutez, l'idée d'une collection low-tech, comme vous dites, oui, allons-y, hein, faisons des objets, faisons-les circuler. Hein, c'était bien ce que je disais tout à l'heure, que j'ai envie de travailler avec d'autres gens, j'ai envie de travailler en collectif pour pouvoir justement... utiliser ce matériau, parce que c'est ça mon but. C'est compliqué, vous savez, et justement le fait de m'être focalisé sur ces terres, justement sans déroger, parce que j'ai bien conscience que autour il y a un espace, il y a un aéroport, il y a toutes les infrastructures, il y a les ressorts qui se construisent, etc. Je parle d'économie, je parle de beaucoup de choses. Ce que je photographie en restant focalisé sur mon sujet, en construisant une œuvre plastique, en montrant un sujet, je parle aussi du hors-champ, de tout ce qui se passe à l'extérieur, et tout ça je peux le raconter. C'est pour ça que je dis, j'aimerais avoir un temps, un espace pour moi pour écrire là-dessus, sur ce que j'ai éprouvé, sur ce que toutes mes réflexions, tout ce que j'ai fait, parce que c'est essentiel que je le fasse. Mais tout ça, c'est un travail de dingue, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire, là, je viens de passer 3 ans, 4 ans à faire ça, j'ai publié un premier livre, alors vous voyez, le livre, il a fallu trouver aussi, il a fallu publier. J'ai publié ce livre, il a fait débat, j'ai eu énormément de presse. Pourquoi ? Parce qu'il mettait en lumière un sujet dont très peu de gens avaient conscience. Donc j'ai déjà franchi la première étape. Là, il y a eu énormément de presse, il y a aussi des batailles qui sont jouées autour de ce livre. Donc ça a été vraiment quand même une étape importante. Et c'est pour ça que je vous dis, la période 2021, j'aimerais beaucoup justement trouver des gens qui s'intéressent à ce travail pour pouvoir en faire quelque chose justement. Et c'est pas parce que je photographie la terre que je m'intéresse pas aux gens qui sont autour, au contraire. C'est bien parce que je m'intéresse aux gens et que c'est pour moi qui est un sujet, c'est un sujet de société. C'est bien pour ça que je vais jusqu'au bout de mon sujet. Et ça, c'est essentiel. Je pense que cette observation minutieuse, ce temps de l'observation, je veux dire, c'est toutes ces 3 ans passés à photographier ce paysage qui se transforme et ces terres qui sont acheminées ici, ça va permettre peut-être maintenant d'en parler, que chacun s'en empare pour en parler. Voilà, il y a plein de façons. On peut parler des ressorts qui se construisent autour de Roissy, on peut parler des autoroutes, on peut parler du Grand Paris, on peut parler des populations locales, on peut parler des animaux, on peut parler des plantes, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais tout ça, c'est contenu dans ce sujet. Et puis, il y a aussi cette dimension aussi que je voudrais rappeler, qui est quand même aussi très importante, c'est cette dimension presque universelle de la Terre en tant que base, enfin, cette relation très directe, presque cette relation, cette dimension du sacré aussi. Et ce sujet-là, il contient aussi cette somme, en fait. Et on peut tirer des fils, voilà, on peut tirer tout un tas de fils. Mais moi, je serais ravie de travailler avec un groupe ici, de cette école. Ici.
Oui, bonjour. Je me demandais, en fait, je trouvais ça étonnant qu'on vous donne carte blanche pour ce travail. Et donc, je me demandais, est-ce que vous saviez pourquoi on vous a permis de faire ce travail ? Est-ce que c'était pour redonner une image de, justement, comme vous disiez, de département déchets d'Île-de-France, est-ce que c'était pour redorer l'image, donner une autre vue, parce que ça pouvait être négatif pour eux de justement montrer ce qui se passait dans ces territoires?
Oui, merci de cette question. En fait, c'est vrai que vous devez ressentir parfois un peu la situation un peu instable dans laquelle je me trouve. D'ailleurs, je photographie des paysages instables, hein, c'est quand même un sujet. Mais c'est compliqué. Effectivement, je me suis rapprochée du groupe ECT qui gère ces sites et qui m'a laissé faire des photos. Ils ont été très surpris de la façon, même les chefs de chantier, etc., quand j'ai fait le livre Terre, sol profond du Grand Paris, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir ce genre de photographie, en fait. Mais quand je me suis rapprochée de ECT, eux, ils avaient envie aussi de montrer ce qui se passait sur leur chantier. Donc, c'était une intention de leur part aussi de montrer ce qui se passait. Ils ne voulaient pas cacher, si vous voulez. Je pense que c'est dans ce sens-là où on s'est Il y a eu une rencontre vraiment, parce que moi j'ai pu montrer de façon, ils ne s'attendaient pas à ça, d'une façon différente, ce qui se passait sur leur chantier. Et donc à la suite du livre, moi j'ai voulu continuer à cette observation, donc c'est là ils m'ont laissé carte blanche pour continuer à faire ce que je veux. Donc il y a quand même une relation de confiance, une volonté de leur part de montrer ce qui se passe dans leur chantier, et aussi, j'ai publié, j'ai écrit, donc j'ai une liberté aussi de dire ce que je pense. Mais c'est vrai que des fois, là, toutes les pistes que je vous donne en parlant aussi très librement devant vous de toutes les questions que je me pose quand je parle d'enjeux politiques, tout ça, je veux dire, c'est délicat, vous comprenez. Mais par contre, moi, j'ai envie de travailler avec d'autres, de poser des questions, des vraies questions. Et ce travail-là, il est fait pour ça. Voilà. Mais merci, parce que c'est vrai qu'on peut comment se situer par rapport quand même à un commanditaire. Enfin, ce n'est pas un travail de commande, mais j'ai quand même été accueillie et financée aussi par ECT pour faire ces photos. Donc, voilà comment je me situe avec ça. Mais en l'occurrence, 2021, maintenant, je me retrouve toute seule avec ce travail. Hein, voilà. Il faut que j'en fasse quelque chose.
Merci. On va peut-être clôturer la discussion. En tout cas, Anne-Marie, tu nous as tendu pas mal de perches. J'ai envie qu'on continue de tirer des fils autour de ce travail et puis peut-être d'un autre, sur un autre élément liquide. Tu l'as évoqué un peu, donc on va peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine discussion. Merci à toi d'être venu à Blois. Merci à l'École du paysage, aux discussions, aux enseignants et étudiants et à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Merci au CAUE aussi, parce qu'on on est aussi dans un cycle de biennale sur les sols, qui est important. Et puis donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine discussion.
Discussion, et vous pouvez retrouver le programme dans son intégralité sur le site internet de l'école. Merci Anne-Marie pour cette présentation. Merci à Bruno pour cette modération.
C'est la fin de cette discussion. Retrouvez ce programme sur la page des discussions de la chocolaterie sur notre site studiozef.fr. À bientôt !